Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui est tous les samedis matins à 8h15 et qui dynamite votre réveil. Elle vous est proposée dans le cadre d'un partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. En effet, j'ai mené de nombreux ateliers dans des classes et aussi à la bibliothèque Saint-Corneille pour former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio. Les productions ont ensuite été enregistrées sous la forme de cette émission, La Matinale Infernale. Je suis Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou le Rendez-vous Culture des bibliothèques. Ce matin, avec moi, ce sont des lycéens de Compiègne qui seront mes chroniqueurs. Je dis bienvenue à la seconde 3 de Pierre Dailly. Ces élèves ont eu la chance cette année de participer à un projet culturel assez vaste et à travers leur chronique, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce qu'ils ont lu ou vu en films, séries, spectacles, livres, voilà, y a un peu tous les formats. Donc j'espère que ce sera très inspirant pour vous. En tout cas, ce matin, je souhaite la bienvenue dans le studio à Rose, Juliette, Ulfa, Emma, Oriane, Louise, Gabrielle, Sophia, Romy, Daniela et Gwenaëlle. Voilà, on a une belle brochette d'étudiants ce matin et ils sont souriants, ça fait plaisir. On va commencer cette émission avec Rose et Juliette qui nous ont préparé une chronique un petit peu spéciale parce qu'elles l'ont un petit peu théâtralisée. Vous allez en apprendre davantage sur un livre, je ne vous dis pas lequel, je vous laisse découvrir, sous la forme d'une discussion mère-fille. Eh bien, à vous les filles.
Ça va Rose ?
Oui, et toi maman ?
Oui, tu dis quoi ?
Je viens de finir un livre pour le lycée, ça s'appelle L'Adversaire.
Oh, on entendait tout le temps parler de ça quand j'avais ton âge. On regardait tout le temps... On regardait avec ton grand-père. Et en plus, dès que le livre il est sorti, je l'ai directement acheté.
Ah, mais Emmanuel Carrère, il est plus vieux que toi ?
Oui, je crois. Attends, je regarde sur Internet. Oui, il est né en 1957 à Paris et il n'est pas qu'un écrivain, il est aussi scénariste et réalisateur.
Mais du coup, quand est-ce qu'il a écrit L'Adversaire ?
Eh bien, il commence en 1993, mais il le publie que 7 ans plus tard. Et le livre, il a eu tellement de succès qu'il a été direct adapté en film. Mais sinon, toi, tu l'as aimé l'histoire ? Et qu'est-ce que t'en as retenu ?
Oui, j'ai adoré l'histoire. Jean-Claude Roman vit dans le mensonge depuis 18 ans. Il ment à tous ses proches sur sa profession en prétendant être médecin, alors qu'il est en fait sans emploi. Il escroque ses proches en leur faisant croire qu'il place leur argent sur des comptes bancaires à l'étranger, ce qui lui permet d'avoir le train de vie d'un médecin au lieu de sa famille et de ses amis. Croyant que ses mensonges vont être découverts, le 9 janvier 1993...
Ah oui, c'est ce jour-là que Jean-Claude Roman y tue son épouse, puis ses deux enfants, et le lendemain, il se rend chez ses parents pour déjeuner, et puis il les tue ainsi que leur chien.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est en découvrant ce crime dans les journaux que Emmanuel Carrère est tellement curieux qu'il décide de rentrer en contact avec Jean-Claude en lui adressant une lettre. Dans cette lettre, il y a le nouveau projet de livre d'Emmanuel Carrère qui est de raconter au lecteur l'histoire d'un homme qui va commettre le meurtre de ses proches ainsi que les raisons qui l'ont amené à les assassiner. Mais il faudra attendre 2 ans avant que le criminel réponde à l'écrivain dans une lettre lui annonçant son consentement pour ce nouveau roman. Et toi maman, t'en as pensé quoi du livre ?
Alors moi j'ai trouvé que c'était un livre passionnant qui nous fait voyager à travers les différentes étapes de la vie de Jean-Claude. Et dès le début du roman, nous sommes transportés dans l'univers de Jean-Claude Roman afin de rentrer dans l'intimité du protagoniste et de ses victimes. Et dans son roman, Emmanuel Carrère, il nous décrit pas à pas la vie de Jean-Claude Roman, sa jeunesse, ses parents, ses études, puis la rencontre avec sa femme. Emmanuel Carrère nous raconte ligne après ligne tous les mensonges et les escroqueries accumulés par le tueur. Il nous explique comment Jean-Claude Roman est pris dans un tourbillon dont il ne sait plus sortir. Au fur et à mesure de notre lecture, nous éprouvons de l'empathie.
La compassion ?
Oui, et de la peine aussi. Des sentiments que nous n'aurions jamais pu imaginer ressentir pour un tueur.
Oui, j'ai trouvé aussi que c'est un roman facile à lire. Lorsqu'on le commence, on ne peut plus s'arrêter. Emmanuel Carrère se contente d'écrire l'histoire de Jean-Claude sans critique, en essayant d'être le plus objectif possible et de ne surtout pas tomber dans le jugement. Il ne fait aucun reproche et laisse la possibilité au lecteur de faire sa propre opinion. Il a le choix entre le prendre en pitié ou le juger coupable.
Mais oui, mais comment ne pas juger cet homme qui a passé sa vie à mentir ?
À tromper aussi.
Oui, et à voler. Et qui achève son histoire en tuant ceux qu'il prétend aimer ?
C'est vrai. C'est pour ça que certaines personnes comme nous pourraient se demander si Emmanuel Carrère n'a pas lui aussi été victime de ses mensonges et manipulations.
Mais oui, tu as totalement raison, Rose. Et ça te dirait qu'on regarde le film ce soir ?
Merci beaucoup, les filles. Eh ben c'était super. Je précise que c'est un sujet sur lequel votre classe a déjà parlé dans une précédente émission et ça a été traité d'une manière différente. Et du coup, là, ça donne encore un autre point de vue, même si les informations de base restent un peu les mêmes. Déjà, peut-être que les auditeurs ne les ont pas entendues. Et puis en plus, avec ce dialogue, je trouve que c'était très vivant. Donc merci beaucoup. On va passer sur un sujet un petit peu plus léger quand même qu'un tueur en série. Ulfa et Emma vont nous parler d'une série tout court, pas de tueur.
Vous remarquerez que personne n'était arabe. Je pensais que ce serait trop explosif.
Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ?
Oui Emma, tu as bien entendu. De nos jours, nombreuses sont les discriminations vis-à-vis de la couleur de peau, du sexe de la personne, de l'orientation sexuelle, etc. C'est donc pour cela que Ricky Gervais et Greg Daniels, et même Paul Lieberstein, se sont donnés comme défi de prendre le problème à l'envers et de le traiter avec humour. The Office version US parut pour la première fois aux États-Unis en 2005. Mais à l'initial, The Office est une série britannique qui est sortie en 2003. La série, elle est dépeinte dans le genre comique et du style sitcom. La série à succès a reçu pas moins de 20 distinctions, parmi lesquelles figure celle du Primetime Emmy Awards de la meilleure série télévisée comique et du Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée comique.
Ah mais oui Ulfa, j'ai déjà regardé cette série mais je n'en tire pas une bonne conclusion.
Eh bien vas-y, raconte-nous ce que tu en as retenu.
Dunder Mifflin est une compagnie spécialisée dans le papier. Chaque jour, une équipe de caméramans filme le quotidien des travailleurs de la papeterie. À la tête de l'entreprise, Michael Gary Scott est un patron cherchant sa personnalité au travers des jours. On suit également l'évolution de chaque personnage de son service et à son intimité. Par exemple, Kelly Kapoor au service après-vente ou encore Kevin Malone au service comptabilité. Dans le premier épisode, Michael Scott nous fait visiter l'entreprise et on rencontre les principaux protagonistes. Dans une ambiance assez dérangeante avec notamment le silence des employés, l'imitation d'Hitler, dès le premier épisode, la série pose les bases et marque des points. Et toi, quels sont les points forts que tu as retenus ?
Bah moi, tous les points forts que j'ai retenus, c'est que les points forts de The Office sont bien évidemment les acteurs de renommée, tels que Steve Carell ou encore John Krasinski. En plus de ces acteurs, des guests interviennent avec des rôles bien construits, tels que Idris Elba et même Warren Buffett, célèbre investisseur américain, jouant ainsi son propre rôle. Le scénario, parfois très prévisible, renforce l'idée comique et ridicule de l'action. Mais parfois, c'est tout de même embêtant. Par exemple, le nombre d'indices montrant à Pam que Jim l'aime, c'est flagrant. Comme a dit Molière, on corrige les mœurs par le rire. Cette phrase pourrait être la devise de la série, parce qu'en effet, grâce au second degré, les mœurs sont corrigées par le rire, et parfois même victimes de satire. Par exemple, avec des stéréotypes souvent tenus par Michael. Des stéréotypes sur la religion, sur l'origine, etc. Par exemple, Angela, elle est dépeinte comme l'ultra-catho, Stanley comme l'afro-américain, Oscar comme le gay, et Michael lui-même, c'est un peu l'allégorie de l'idiotie américaine. Puis évidemment, le rôle de Michael, qui est quant à lui l'un des piliers forts de la série. Il est caractérisé par son paradoxe, parce qu'en effet, il pense, il croit et veut être le meilleur des boss. On peut le voir grâce à sa tasse où est inscrit en gros « le meilleur boss du monde », ou encore sa rivalité avec Josh, patron de la filiale de Buffalo.
Ah oui, ça en fait beaucoup.
Et donc, t'en tires quoi maintenant ?
The Office est une série qui a su charmer le cœur de ses fans par des références et par son style bien atypique. Repris dans d'autres séries comme Brooklyn 99, la série se démarque en étant provocante, mais pour la bonne cause, celle de détruire les discriminations. Et bien maintenant, je peux te dire que je vais recommencer cette série.
Merci beaucoup, Ulfa et Emma. D'avoir parlé d'une série moi j'ai encore jamais regardé, donc du coup voilà, ça va être l'occasion. On va pouvoir aller sur un autre sujet carrément. Aujourd'hui les sujets sont très éclectiques et puis c'est bien parce que comme ça on se réveille en parlant de plein de trucs avec des idées plein la tête. Oriane et Louise, vous nous avez préparé quelque chose sur un livre que moi je trouve particulièrement inspirant. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder.
Hey Oriane, tu lis quoi ?
Un livre sur le féminisme qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ».
Ah, trop stylé comme titre.
Oriane, tu peux nous redire ce que tu lis ? J'ai pas bien entendu.
Un livre sur le féminisme qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ».
Ouais, trop stylé comme titre, ça parle de quoi ?
Eh ben, c'est un livre qui a été écrit par une essayiste féministe qui s'appelle Pauline Armange. Il parle de l'émancipation de la femme dans la société actuelle. Et la question principale, c'est de savoir si les femmes ont une raison légitime de détester les hommes, et si oui, pourquoi. Il a été vendu qu'à 450 exemplaires avant que le ministère des droits de la femme ne le censure pour ode à la misandrie.
C'est quoi la misandrie ?
Une misandre, c'est quelqu'un qui n'aime pas les personnes de sexe masculin.
Ah ok, et t'aimes bien le livre ?
Ouais, j'adore, c'est devenu un de mes livres préférés. Et même si le titre est assez provocateur, je trouve que le livre n'incite pas du tout à la haine envers les hommes. Il est plein de super citations en plus.
Et c'est laquelle t'as préférée ?
Elle est page 53. C'est ne pas accorder d'importance aux hommes nous permet d'embrasser du regard leur profonde incompétence et d'oser leur passer devant. Insensible à leurs artifices, on peut enfin prendre la place qui nous revient de droit.
Franchement, il a l'air super bien et il est pas trop long ?
Non, justement, les chapitres ils font pas plus de 4 pages et il doit y en avoir une dizaine. C'est un tout petit livre mais il mérite vraiment d'être lu.
Tu me conseilles de le lire vraiment ?
Ah ouais, carrément, je le recommande à tout le monde. Il est super instructif et facile à lire. Si tout le monde le lisait, il pourrait vraiment faire changer les mentalités.
Merci les filles. Bah, ça me fait un petit clin d'œil à Fatih la féministe, qui est une autre de nos chroniqueuses de la matinale infernale et qui parle beaucoup de sujets autour du féminisme, de la femme. Elle a fait un gros sujet sur le nom des rues dans Compiègne, qui était beaucoup des noms des rues d'hommes. Et à chaque fois, il y a toujours des clins d'œil sur pourquoi la femme devrait pouvoir s'émanciper de façon beaucoup plus naturelle. Donc merci beaucoup. Moi, les hommes, je les déteste. Hein, c'est ça le titre du livre. Pour faire écho à votre chronique, les filles, on va faire une petite pause musicale avec la chanson de Clara Luciani, La Grenade.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Et nous voilà de retour dans la matinale
infernale.
Infernal. Oui, 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 c'est nous. On est toujours avec les secondes 3 du lycée Pierre Dailly et on continue les chroniques sur leurs pratiques culturelles, tout ce qu'ils ont vu au cours de l'année, soit personnellement, soit grâce au projet de classe. On va enchaîner du coup avec Gabriel. Gabriel, de quoi veux-tu nous parler ?
Bonjour, donc moi je vais vous parler de Madame de la Pommeraye. Donc envie d'un conte de manipulation et de manigance, vous allez être servi. Madame de la Pommeraye de Diderot est parue en 1796 et est tirée de son roman Jacques le Fataliste. Né le 5 octobre 1713 à Langres, l'auteur est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français des Lumières. Diderot est connu pour son esprit critique, son érudition, mais aussi pour sa supervision de la rédaction d'un des ouvrages les plus marquants de son siècle, la célèbre Encyclopédie. Jacques le Fataliste était déjà connu en Allemagne et paraissait initialement en feuilleton dans la correspondance littéraire de Melchior Grimm. Jacques et son maître sont en voyage et s'arrêtent en chemin dans l'auberge du Grand Cerf. Ils rencontrent alors l'hôtesse qui leur raconte l'histoire de Madame de la Pommeraye. Le marquis des Arcis, un libertin, est amoureux de Madame de la Pommeraye. Celle-ci repousse ses avances avant de lui céder. Cette histoire d'amour ne durera point longtemps car le marquis finit par se lasser d'elle. Madame de la Pommeraye, brillante et fière, prépare alors une terrible vengeance. Lire Madame de la Pommeraye, c'est être plongé dans un conte de manipulation. Tout au long du récit, nous assistons à la préparation et au déroulement de la tromperie de Madame de la Pommeraye. Ce qui est fascinant et intriguant, c'est que nous connaissons toutes les étapes du plan de Madame de la Pommeraye et que nous sommes excités de connaître les réactions et le comportement du marquis suite à celle-ci. De plus, l'œuvre contient énormément d'actions. Dès qu'une seule partie du plan est achevée, une autre arrive juste après, ce qui ne laisse aucun moment de blanc. Ce que j'ai beaucoup aimé en lisant ce texte, c'est que l'on ne s'ennuyait jamais. Tous ces éléments sont mis en scène grâce au génie et à la qualité d'écriture de Diderot. Le moment décisif de ce texte est au moment de la rencontre entre le marquis et les deux dévotes. C'est mon passage préféré du livre, car il illustre parfaitement le commencement de la mise en application du plan de Madame de la Pommeraye. En plus de cela, Madame de la Pommeraye use du mensonge pour tromper le marquis. C'est une parfaite mise en scène, car la protagoniste fait comme si c'était un événement de hasard, alors que tout est planifié. J'ai beaucoup apprécié que Diderot mette en avance l'intelligence de Madame de la Pommeraye. En effet, il la fait jouer avec la naïveté du marquis. Elle fait comme si les deux fausses dévotes étaient des amies de longue date, ce qui est pour ma part vraiment remarquable. Le marquis, à l'issue de cette rencontre, est déjà séduit. Comme quoi, Madame de la Pommeraye est une femme d'exception. Mais le sort n'a pas dit son dernier mot, que ce soit pour le marquis ou pour notre protagoniste. À vous de lire le conte pour connaître toute l'histoire. Comme avis global, on peut dire que Madame de la Pommeraye constitue l'excellent récit d'une femme fière et brillante, rendue agréable à lire grâce au génie et au talent de Diderot.
Merci beaucoup Gabriel, c'est l'art de revisiter du coup un classique, parce que c'est vrai que c'est quand même, à part à l'école, on ne lit pas souvent de classiques, enfin pour ma part, mais peut-être que je me trompe, les auditeurs pourront me démentir. Et là je pense que tu l'as vraiment bien mis en valeur, Madame de la Pommeraye de Diderot. Titre que d'ailleurs je ne connaissais pas, donc merci beaucoup. On va enchaîner avec un film que peut-être pour le coup nombre d'auditeurs ont déjà vu. Et je vais laisser Sophia et Romy nous en parler.
Elephant Man, une œuvre poignante de vérité qui nous amène à réfléchir à la question de la différence. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un film que nous avons vu en classe avec Sophia. Elephant Man. Alors Sophia, dis-moi en plus sur cette œuvre. Qui est l'auteur et quand cette œuvre a-t-elle été écrite ?
Donc Elephant Man de David Lynch est sorti le 8 avril 1981.
Qui est David Lynch pour commencer ?
David Lynch est un cinéaste, scénariste, photographe, musicien et peintre américain né le 20 janvier 1946 à Missoula dans le Montana.
Quelle grande figure du cinéma pouvons-nous retrouver dans cette œuvre ?
Donc, dans le casting de l'œuvre, nous pouvons retrouver John Hurt qui incarne le rôle de John Merrick ou encore Anthony Hopkins qui joue le rôle du docteur Frederick Treves.
Et Sophia, dans quel genre, cette œuvre prend-elle place ?
Cette œuvre prend place dans le genre dramatique et biographique. Donc, en effet, ce film relate les mémoires du docteur Frederick Treves, le médecin s'étant occupé de John Merrick dans le film, ayant vécu durant l'époque victorienne à Londres.
Comment ce film a été perçu par le public ?
Cette œuvre cinématographique a été très appréciée par le public.
Est-ce que ce film a eu des récompenses ?
Alors oui, il a remporté plusieurs distinctions, comme par exemple le César du meilleur film étranger. Il a également été nommé 8 fois aux Oscars de 1981.
Mais ce film relate d'une histoire vraie ?
En effet, ce film relate d'une histoire vraie, celle de John Merrick.
Peux-tu nous en dire plus ?
Tout commence quand le docteur Treves entend parler d'un certain homme-éléphant. Se trouvant dans une foire aux monstres, le docteur, curieux de voir ce spécimen, se rend donc dans la foire et demande à voir la fameuse créature. Bites, le propriétaire entre guillemets de l'homme-éléphant, décide de lui montrer John. Le docteur, fasciné et touché par ce physique atypique, décide de s'occuper de John et de l'emmener loger à l'hôpital où il travaille, en échange d'argent donc, qu'il donne à Monsieur Bites. Mais en essayant d'établir un contact, il se rend compte que John a une attitude presque bestiale. Il ne sait pas parler et il est très craintif. Avec beaucoup de patience et de tendresse, le docteur réussit à l'apprivoiser. John souffre de plus en plus au personnel hospitalier et au docteur. Ce dernier se rend compte que l'homme éléphant est en fait un charmant jeune homme de 21 ans qui sait lire et parler. Donc ainsi, une amitié va se créer entre John et le docteur, le personnel hospitalier, mais aussi d'autres personnes. Néanmoins, plusieurs personnes voudront nuire à John, comme Monsieur Bites, qui voudra le récupérer, et d'autres encore.
Et quel est l'enjeu de ce livre ? Que pouvons-nous nous demander ?
Entre incompréhension et soutien, nous nous demanderons si John Merrick réussira enfin à être traité comme un être humain.
Qu'as-tu pensé de cette œuvre ?
Cette œuvre est pour moi une œuvre qui pousse le spectateur à réfléchir à différents sujets comme la différence, l'acceptation ou encore le rejet, ce qui peut amener le lecteur à s'identifier au personnage principal.
Et quel est le but de ce film ?
Ce film a pour but de faire changer les mentalités à propos de la différence.
Et qu'est-ce que l'auteur cherche à nous montrer ?
Pardon.
Déjà, s'il veut nous faire réfléchir, c'est pas mal, hein.
Ouais, déjà.
Sur tous les sujets dont vous avez déjà parlé. Moi, si je comprends bien, c'est à la fois un film, parce que moi, je connaissais le film, mais c'est aussi un livre, en fait. Du coup, vous parlez du livre et des lecteurs.
Oui, c'est ça.
Ouais, okay. Donc l'auteur cherche à nous montrer que la différence peut faire peur, mais qu'elle peut également être belle.
Donc, en conclusion, quelle est la morale de cette œuvre cinématographique ?
Elephant Man est une œuvre cinématographique poignante qui amène le spectateur à se poser des questions et à faire évoluer les mentalités.
Si vous avez loupé ce classique,
nous vous le conseillons vivement.
Merci beaucoup les filles. Eh ben, effectivement, moi je connais le film, je vois très bien l'affiche à quoi elle ressemble, mais je ne l'ai jamais vue. Et du coup, ça serait une bonne idée de pouvoir revoir ou voir ce classique. Ou de le lire du coup, puisque vous avez dit aussi que c'était un livre issu d'une histoire vraie. J'avais même pas idée que c'était issu d'une histoire vraie. Eh bien, on va passer à la dernière chronique de notre émission. On va parler d'un sujet plus léger d'une certaine manière, mais finalement... enfin bref, vous allez nous en dire plus. Daniela et Gwenaëlle, vous nous avez préparé quelque chose.
Oui, et c'est exact. Alors, il y a eu une explosion et quand je me suis revenue à moi, on m'avait sauvée. C'est sur cette phrase que Bubble, un film d'animation japonais, commence réellement. Produit par Wild Studio et sorti en 2022, ce film a été réalisé par Tetsuro Araki, qui est très connu dans le milieu du manga, notamment pour avoir produit des mangas succès tels que Death Note ou L'Attaque des Titans. Le scénario est écrit par Gen Urobuchi, les personnages sont conçus par Takeshi Obato et la musique est produite par Hiroyuki Sawara. Donc on peut dire que Bubble a eu droit à un staff 5 étoiles pour les otaku et ceux qui connaissent, entre guillemets. Donc Bubble a eu droit à sa première sortie et diffusion lors du Festival international du film de Berlin le 10 février 2022 avant d'être diffusé sur Netflix.
Ah, Netflix, super, moi je vais pouvoir le regarder aussi.
Oui, exactement. L'histoire commence à Tokyo, qui est victime d'un curieux phénomène météorologique. Une sorte de pluie de bulles s'est abattue sur la capitale du Japon. Cet événement étonnant ne semble pas être dangereux, du moins au début. Mais après quelques temps, ces bulles ont commencé à se rassembler pour former une sorte d'océan au centre de la ville qui défie toutes les lois de la gravité. Tokyo se trouve coupée du monde et désertée de ses habitants. Cependant, plusieurs jeunes adolescents ayant perdu leur famille lors d'une explosion, liée aux bulles au centre de Tokyo, sont devenus adeptes d'un sport nouveau qui vise à effectuer un parcours dans la ville délaissée en défiant les autres. Pour gagner ces courses en équipe, il faut sauter d'immeuble en immeuble, d'un point A à un point B. Cette activité est extrêmement dangereuse parce que si tu tombes, bah tu meurs.
C'est le principe de sauter d'un immeuble.
Oui. Donc, un jour, un jeune garçon nommé Ibiki, connu pour son talent dans ce sport, se retrouve dans un milieu instable, au-dessus d'un mystérieux océan, parce qu'il a entendu un chant étrange qu'il a entendu le jour de l'explosion qui a tué sa mère. Il tombe dans l'eau, du coup. Et se débat pour retourner à la surface, mais en vain. Et en perdant connaissance, il accepte son destin funeste. Mais par chance, une jeune fille fait son apparition et le sauve. Le comportement de la fille se révèle assez étrange. Et il se trouve qu'elle possède certains pouvoirs tout aussi étrange. Donc, et on apprend donc qu'elle s'appelle Uta, ce qui signifie littéralement chanter en japonais. Donc voilà. Donc Bubble est une version revisitée de La Petite Sirène. Le réalisateur s'est inspiré de ce conte populaire et l'a recréé de manière à donner naissance à Bubble. Uta représente la sirène amoureuse d'un garçon qu'elle a sauvé, qui semble dans tout autre monde, et Ibiki fait office du prince inaccessible. Uta est un personnage attachant et enjoué. Elle s'ouvre facilement aux autres et peut parfois sembler enfantine. Elle est aussi très curieuse. Son caractère est bien opposé à celui d'Ibiki. Là, c'est vrai qu'il se montre très imperturbable et solitaire, bien qu'il peut être facilement irritable. Sur le plan visuel, Bubble est un réel régal pour les yeux. Les sauts en 3D et les séquences de parcours sont extrêmement bien animées. D'ailleurs, ce n'est pas très étonnant de Tetsuro parce que quand même, il a animé l'attaque des titans, donc c'est un peu logique. Oui, forcément.
Tu vois ce que tu veux dire.
Oui, dans les scènes plus calmes et sentimentales, il y a plus de travail au niveau de l'esthétique. La musique est très importante dans ce film, elle marche à l'unisson avec les scènes jouées, de manière à nous pousser davantage dans l'histoire et à nous attacher aux personnages. Bubble traite de plusieurs thèmes tels que la solitude, la différence, la peur de perdre l'autre et l'amour, bien évidemment. Bubble est un réel chef-d'œuvre de l'animation japonaise avec une histoire époustouflante. Ce film est tout aussi excellent visuellement que dans son histoire.
Merci beaucoup Daniela. Eh ben écoute, moi j'ai hâte de le regarder sur Netflix. Bubble, tu as dit que la musique était partie intégrante du film.
C'est exact.
Eh ben du coup, je propose qu'on termine l'émission en écoutant le main theme. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, chères auditrices, mes chroniqueurs du jour. C'était votre dernière émission pour votre classe. Bravo à tous. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale infernale, bien sûr. Allez, on termine en musique avec un extrait de Bubble. La 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 la